amis.
Salut Charline.
Alors, c'était bien ton week-end?
Ah ouais, super. Et vous, l'émission en public, ça s'est bien passé?
Ah, génial. Super, ouais, génial. Super, ouais.
Attendez, rassurez-moi là. Quoi? Vous n'avez pas passé la japonaise qui jouait de la flûte avec son anus, j'espère?
Ah non.
Non, on l'a pas passé pour finir.
Oh là là, là j'ai l'impression que vous me mentez là.
Non,
si,
non,
si,
non,
si.
Non,
je
non.
vais commencer par écouter l'émission de vendredi. Hein.
Charline, tu peux nous croire?
Oui, et puis c'est mieux de préparer celle d'aujourd'hui. Allez, on y va.
Moi, j'ai un super sujet sur l'explosion de l'offre culturelle. Il y a tellement de choses à avoir vues pour être à la hauteur socialement.
Ah, c'est intéressant ça, oui.
Moi, je suis comme ça, moi. Si dans une conversation, je sens que les gens n'ont pas un minimum de culture cinéma.
Ah ouais, on reçoit qui d'ailleurs?
André Wilms, l'acteur fétiche de Kores Maki.
J'adore.
Ah bon, tu connais?
Si je connais, moi, je suis un fou de cinéma japonais, moi.
Ah, bah, pas de chance.
Ouais, pas de chance pour Guillaume, là, tu vas être un peu dépassé pendant cette émission, hein, si tu veux, prends une RTT parce que.
Non, je veux dire, pas de chance pour toi, Alex.
Ah bon, c'est
bah, Kores Maki, il est finlandais.
Oh le vent. Tu veux pas prendre une RTT, non?
Mais bon, qu'est-ce qu'il dit cet article?
Alors, il dit notamment que les gens veulent tout voir et il existe même des logiciels pour regarder les séries et les films en accéléré.
Ah, bah, c'est fou ça, mais les gens, ils veulent juste connaître la fin, quoi.
C'est ça.
Pour ça, Columbo, c'était bien, du coup.
C'était lent.
Oui, mais comme au début, tu savais qui était tué, du coup.
Il a faim.
Ben, Columbo, il retrouvait le coupable.
Ah oui.
Bah oui.
Dis donc, Alex, on t'entend plus, là. À quoi tu penses?
Je pense que Kores Maki est très influencé par le cinéma japonais.
Oui, bah, bien sûr.
Et c'est pour ça que je me suis trompé.
Ouais, c'est ça.
Là là.
Bon, alors, on va te trouver ce petit logiciel, là, parce que comme ça, tu vas pouvoir mater toute son œuvre en 12 minutes.
C'est malin,
alors,
ça, c'est malin.
Hop, 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 au boulot. Moi, je vais m'écouter l'émission de vendredi.
Non, vous êtes mal.
J'espère qu'elle aime la flûte. Pas tant la flûte le problème que d'où elle est jouée.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui taille des costards gratuitement à l'actualité. Et voici les trois informations dont les boutons de manchette valent un SMIC. Pour aller de l'avant, des communistes se mettent en marche. Quelques drôles de cocos rallient Macron et des maires PCF ont rechigné à donner leur parrainage à Mélenchon. Les militants communistes sont bouleversés par ce qui arrive.
Pourquoi?
Marielle, je vous en prie, je vous en conjure, calmez-vous. Reprenez vos esprits. C'est une nouvelle épreuve. Il faut savoir la surmonter.
L'offre culturelle est devenue massive et on peut y accéder en un clic. Se servir comme dans un buffet à volonté. Il en découle un sentiment de panique. Comment tout voir, tout lire et surtout comment rester curieux?
On ne sait que choisir.
C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix.
Le Vendée Globe est enfin terminé depuis samedi. Oui, il restait un concurrent, Sébastien Destrémaux, arrivé dernier. Il a perdu avec un tel panache qu'il s'agit d'un exploit grâce à un mental d'acier.
Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout.
Je suis accompagnée de celui qui bosse comme un premier de la classe pour avoir l'air d'être le dernier. Et c'est beaucoup de travail. C'est Alex Vizorek.
Oh, c'est bien dit ça. Mais c'est presque gentil. Bonjour, Charline Vanhoenacker.
C'est
content.
Presque vrai, surtout.
Oui, c'est presque vrai. Je suis content que vous soyez là parce que vous m'avez manqué vendredi. Il a voulu passer des sons, j'étais contre. Allez, autour de la
j'aime
table.
La flûte,
une belle équipe, 17h20. Quand la musique est bonne, 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 quand la musique sonne,
sonne. Qu'est-ce que c'est cette chanson?
C'est Mélanie Bauer qui l'intercepte. On l'a entendu. Comment allez-vous, Mélanie?
Je vais très bien. Je vous emmène en Jamaïque, sur les hauteurs de Kingston. Écoutez du reggae, ça va être super.
Très bien. 17h30, je savais qu'il était sportif, mais aussi qu'il avait un handicap. Donc, je lui ai dit, Guillaume, va au salon du golf. C'est pour toi. Bonjour, Guillaume.
Et bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Bonjour à tous. Et j'y suis allé ce matin.
Je sais.
Et j'ai rencontré notamment le responsable du salon qui était très en forme.
Vous êtes très fort, j'ai très bien compris de quelle manière vous vouliez avancer avec moi. Et c'est pour ça, monsieur, que je ne vous attaque pas en frontal. Je vais passer par derrière.
Calme-toi, calme-toi quand même. C'était un peu chaud. Et 17h40, c'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule de la chronique. C'est vous, Hippolyte Girardot, bonjour.
C'est pas de vous, ça.
Ça me dit quelque chose.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler d'un logiciel de l'émotion.
Oh là là.
Et voici celui qui va présider cette joyeuse tablée. Vous décrochez un CAP de plâtrier et puis vous faites dans la plomberie avant d'être engagé comme machiniste au théâtre, puis figurant. Et puis vous devenez comédien par hasard et dans les années 80, vous déclinez l'offre de rentrer à la Comédie Française. En 1988, vous devenez Monsieur Le Quesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtillier, qui vous fait tourner aussi dans Tati Daniel et dans Tanguy. Vous faites partie de la, comment dire, de la troupe de réalisateurs finlandais Aki Kores Maki, sous la direction duquel vous avez tourné 4 films, dont Le Havre. En résumé, vous êtes passé de la plomberie à Kores Maki. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
André Wilms, c'est tout arrive.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bonjour André Wilms, c'est
bonjour.
Vrai, tout arrive.
Eh oui.
C'est vrai.
Ben, voilà, on va commencer calmement.
Oui,
hein.
Oui.
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut absolument le faire savoir. C'est mon truc. Donc vous n'allez pas me poser de questions épouvantables.
C'est le nôtre. Allons-y. Aussi. C'est le parti. Nôtre aussi, André Wilms. Alors vous êtes venu nous parler d'un film dans lequel vous ne jouez pas. Et ça déjà.
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Parce que si
c'est
je beau. Joue dans le film et si je dis le film est génial, tout le monde va dire ça y est, il a définitivement pété les plombs, il faut l'interner. Si je dis que le film d'Aki Kaurismäki que je viens de voir est un film absolument génial, ça ne veut plus rien dire, mais bouleversant, triste, beau, magnifique, qui est le contraire de la culture, qui est de l'art, et qui, je sais bien que les poèmes de Heine n'ont pas empêché Hitler de venir au pouvoir, mais qui est encore une tentative de résistance, une toute petite tentative de résistance contre la barbarie absolue, alors ça m'a presque fait pleurer.
Vous dites, le contraire de la culture, c'est l'art ?
Oui. C'est très énervant la culture, il y en a partout. Tout le monde fait de la culture. Tu peux plus sortir dans la rue, il n'y a plus que des acteurs. Tu te pointes à la maison de la radio, tu crois que c'est Humphrey Bogart et machin, il y a, je sais pas, Léa Salamé, je sais pas qui grand.
Patrick Cohen en photo sur le mur.
C'est hallucinant. Alors en plus, les bourgeois adorent que leurs enfants fassent du théâtre maintenant. Ils trouvent ça vachement bien. Avant, t'étais une pute quand tu faisais du théâtre. Et quand t'étais un garçon, t'étais un PD. Ma mère, quand elle a su que j'étais... Elle m'a dit, oulala, il doit être un inverti, on disait. Allez, c'est pas mal non plus. Non, non, bon, je me calme. Et on redescend, tranquillement.
On s'adapte à votre rythme.
Non, pardon.
Justement, André Wilms, ce que vous dites, c'est vrai, Aki Kaurismäki est connu pour son engagement. Et d'ailleurs, c'est tout à fait, on dirait aujourd'hui, décomplexé, comme c'est un mot à la mode. C'est-à-dire qu'il veut vraiment influer sur l'opinion du spectateur, quitte à le prendre aussi par les sentiments pour ça. Le film qui sort en salle mercredi, De l'autre côté de l'espoir, c'est une histoire de réfugiés, comme dans Le Havre, mais d'une manière différente. Et donc, le fait que vous ne jouiez pas dans ce film, vous venez quand même en parler, qui est beau en soi déjà, est-ce que c'est aussi un acte militant ?
Militant, je le mettrai entre guillemets parce que j'ai peur du mot, mais c'est aussi un acte militant pour un certain type de cinéma. Maintenant, je trouve que tout va extraordinairement vite, qu'il y a des millions d'images. Il faudrait que je me lave les yeux à l'eau de Javel pour pouvoir tous les voir. Et je trouve que chez Kaurismäki, il y a comme une cure d'amaigrissement du regard. C'est-à-dire, il prend son temps, il regarde un être humain vraiment bien, il ne s'énerve pas. Sa caméra, c'est une caméra d'alcoolo, donc elle ne bouge pas trop. Et c'est bien. Et au moins, il pense, et il change le rythme, et il calme, et c'est lent, et c'est doux, et ça console, et c'est révolutionnaire, parce que maintenant, la lenteur est révolutionnaire. Et aussi... l'absence de trop de dialogue, le burlesque, pas le comique, le burlesque.
Il y a un côté Tati qui l'a influencé d'ailleurs.
Ah, bien sûr, il est influencé par Tati, par Chaplin et par Ozu, celui qui n'a pas parlé du japonais ce matin, c'est très juste. Par Ozu, vous voyez, j'écoute tout ce que vous dites.
C'est vrai.
Et voilà, maintenant j'ai à se dire.
Non, j'ai encore une petite question. Hein. On peut peut-être raconter aux auditeurs, de l'autre côté de l'espoir, un réfugié syrien qui arrive à Helsinki, qui tente d'avoir des papiers. C'est deux destins qui se croisent parce qu'il y a aussi un représentant de commerce qui change de vie, qui quitte sa femme alcoolique, il change de boulot. Et c'est là qu'il va croiser Khaled, donc le réfugié syrien. Dans Le Havre, c'était déjà... Au départ, ça doit être une trilogie, normalement. Ouais. Sauf que c'est vrai qu'Aki Kaurismäki a dit que c'était peut-être son dernier film. Et là, vous allez être au chômage, du coup, André Wilms.
Oui.
Mais le regard que Kaurismäki porte sur les réfugiés dans Le Havre et aujourd'hui dans De l'autre côté de l'espoir, entre les deux films, est-ce qu'il a évolué ? Je rappelle que vous avez joué dans Le Havre.
Non, c'est aussi... Je peux vous dire assez vite... Dans Le Havre, par exemple, on trouve des réfugiés dans un conteneur. Mm-hmm. Et il me dit, si je filme des réfugiés dans un conteneur, il faut qu'ils soient dégueulasses, sales et tout. Je n'ai pas le droit. Donc, quand j'ouvre le conteneur, je veux qu'ils soient habillés d'une manière absolument sublime. Il faut qu'ils soient beaux. Ça, c'est ce que j'appelle l'art. Et ensuite, je disais déjà à l'époque aux petits garçons, tu sais, l'Angleterre, c'est de l'autre côté. C'est marrant, ils veulent tous aller en Angleterre. Là, le regard qu'il a sur les réfugiés est toujours très bien, parce que ce n'est pas non plus un regard politiquement correct, ce n'est pas guédiguant non plus. D'abord, un mec quitte sa femme parce qu'elle est alcoolo, c'est déjà pas mal. Généralement, c'est l'inverse.
L'alliance finit dans le cendrier.
L'alliance finit dans le cendrier. Les réfugiés boivent. Bien qu'ils soient. Et puis, comme dit Aki Kaurismäki, personne ne peut être assez désespéré pour chercher refuge en Finlande. Il faut vraiment être au bout du rouleau.
C'est vrai, ça se sent dans son image.
Et ça, c'est assez beau. Et il y a la plus belles phrases que je trouve dans son truc. Il y a un type qui dit « Je suis en train de tomber amoureux de la Finlande, tu peux m'aider à sortir d'ici ?» Eh bien, c'est un peu comme avec les femmes. Il faut vraiment se sauver le plus vite possible.
André Wilms, ce qui nous parle de l'autre côté de l'espoir, d'Aki Kaurismäki, qui sort en salle mercredi. Un très beau film et dans lequel André Wilms ne joue pas mais vient nous parler avec générosité. On va avoir l'occasion d'en reparler. Nous avons des thèmes connexes à ce sujet. Knock on Wood sur France Inter en compagnie d'André Wilms. Car le dernier film d'Aki Kaurismäki sort en salle mercredi, il s'appelle De l'autre côté de l'espoir. Et André Wilms, il ne joue pas dedans, mais c'est l'acteur, dit-on, fétiche de Kaurismäki. Et donc il est venu en bon camarade. André Wilms, merci.
Dire aussi aux gens que mercredi, ils sortent d'autres films dans lesquels vous n'avez pas joué. Au cas où.
Voilà. Je ne comprends pas voilà. Pourquoi.
Nous non plus, André. Alors, pour vous accompagner...
J'ai mis très longtemps à comprendre que tout le monde ne me voulait pas. Aussi qu'il y avait des gens qui me trouvaient antipathique. Ça, j'ai eu vraiment du mal à comprendre pendant très longtemps. Ça, je me suis toujours dit, les gens doivent me trouver sympathique. Et puis d'un coup, je me suis aperçu que ce n'est pas toujours vrai.
Peut-être votre rôle dans La vie est un long fleuve tranquille, vous en avez...
Oh, putain, il y a plein de gens qui ont cru que j'étais comme ça. Et notamment Sandrine Bonner. Elle a voulu... Je devais tourner avec elle. Elle a dit, mais je ne peux pas tourner avec ce coincé. En fait, complètement...
Tu vas faire péter les mailles de tes dents.
Non. Elle était complètement... Ah non, 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 je t'en prie.
Ah, ça vous a collé, ouais, ça vous a collé au basque, André
Ça m'a
Wilms.
Collé là où vous pensez.
C'est un petit peu comme les brèves avec Alex Vizorek. Hein,
alors,
sauf qu'autour de la table, est-ce qu'on a dit qui était
l'ordre.
Avec nous.
Il y a Mélanie Bauer, il y a Guillaume Meurice, il y a Hippolyte Girardot et l'actualité.
L'actualité avec de la blague dedans. Hein.
Ce que je veux, c'est...
Le journal de presque 17h17.
Parce que c'est notre projet.
commence par les titres.
Le JDD a révélé que François Fillon s'était fait offrir pour 48 500 euros de costumes sur mesure par, semble-t-il, un milliardaire.
Mais oui, mais 48 500 euros pour une veste nickel, alors qu'elle se retourne si souvent, je dis c'est pas cher.
Invité hier soir aux 20h de TF1, Emmanuel Macron a promis une majorité cohérente.
Oui, et bien il a bien fait de le préciser, parce qu'entre Robert Huet et Alain Minc, c'était pas évident à première vue.
Il y aura des brèves.
Mais oui, oui, parce que la joueuse de flûte, là, j'ai des... Mais non, il n'y a pas de chose.
Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Et donc hier, oui. Le JDD nous l'apprenait, François Fillon s'est fait offrir pour 48 500 euros de costume par un mystérieux ami, millionnaire ou milliardaire.
Et c'est dommage que François Fillon n'ait pas une amie esthéticienne. Il aurait eu les sourcils aussi bien taillés que ses costumes. Et...
François Fillon s'est donc justifié ce matin. J'ai reçu pour 48 000 euros de costume, virgule. Et alors ?
Mais bien sûr, et Rachida Dati a immédiatement apporté son soutien à François Fillon.
Comme quoi Macron avait tort, il ne faut pas nécessairement travailler pour s'offrir un costard.
Il suffit de demander à un ami, voilà.
Dites donc Guillaume, ben oui, c'est... on voit bien que vous n'avez pas trop d'amis millionnaires.
Oh, oh, les blagues sur les vêtements.
On était contents de la faire.
Ils sont contents.
Côté bonne nouvelle quand même pour François Fillon, Charles Millon rejoint l'équipe de campagne de François Fillon. Et quand ils l'ont vu arriver, ils ont tous crié...
Évidemment. J'étais content. Évidemment.
Et ce matin, François Fillon était d'attaque avec la présentation de son projet pour
oui.
la France.
François Fillon se tenait derrière un pupitre magnifique. Il y avait une petite erreur dans la date. Il y avait écrit 13 mars 1017. Est-ce que le stagiaire s'est adapté aux prises de position du candidat ? On ne sait pas.
Et lors de cette présentation, il a déclaré qu'il voulait un code de conduite pour les membres du gouvernement.
Il a dit ça. Alors je déclare officiellement le 13 mars, journée mondiale du foutage de gueule.
Alors en revanche, ce lundi, oui. C'est aujourd'hui donc à commencer la semaine du cerveau.
Ah, j'espère que C8 aura pensé à suspendre Touche pas à mon poste.
Et restons chez les Républicains. Oui. Ce week-end, leur compte Twitter a publié une infographie intitulée « La vérité sur la galaxie Macron » où l'on voit le candidat d'En Marche caricaturé avec un haut de forme, un cigare et un nez crochu.
Oui, chez les Républicains, on se vante de Gaulle, mais on agit un peu comme Pétain. Hein, ils font vraiment pas attention à leurs collaborateurs là-bas.
Sans transition aucune, passons au FN.
Oui, Marine Le Pen était ce matin sur France Info et était remontée contre les médias.
Lorsque M. Macron est interrogé sur TF1 avec une Anne-Laure Coudray qui le mange des yeux en lui disant « Mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes bon en économie ?»
Et oui, la presse derrière a titré « Sexisme de Marine Le Pen ». Moi, je pense que c'est de la jalousie. Donc vous qui connaissez David Pujadas, dites-lui que quand elle revient, s'il pouvait lui faire un petit clin d'œil ou quelque chose, ça ferait plaisir. Voilà.
Front National, toujours dans une biographie consacrée à Florian Philippot, on apprend que Gilbert Collard voudrait le virer du FN.
Ah oui, bah oui, au FN, on croyait qu'il détestait seulement les autres, mais non, il se déteste entre.
Alors que Gilbert Collard ne fait pas partie du FN.
Ah ben,
il est du Rassemblement Bleu
Marine. C'est sa coupe de cheveux que je préfère.
Justice, le terroriste Carlos sera jugé pour l'attentat du drugstore 43 ans plus tard.
Voilà, une semaine après que l'affaire Denis Baupin a été classée sans suite pour prescription.
Sport à présent et football. Et cette polémique autour du joueur du PSG, Serge Aurier, il a pris plus de 8 minutes
oui.
pour remplacer son coéquipier car il n'avait pas mis ses chaussettes.
Alors, nous rappelons que 8 minutes, c'est le temps qu'il faut à Barcelone pour mettre 3 buts au Paris Saint-Germain.
Iris Metenaere, la Miss France devenue Miss Univers, elle va rencontrer François Hollande ce samedi.
Ah pépère, il est en dernière ligne droite, il est en roue, il n'a plus rien à foutre. Il convoque Miss France. Profites-en mon bonhomme.
Allez des brèves.
Oui, dans l'heure, un garçon s'étouffe avec un biscuit mais échappe à la mort grâce aux gendarmes. Hein, comme quoi c'est bien de prolonger l'état d'urgence.
Une dernière ?
Oui, en Thaïlande, une tortue qui avait avalé 915 pièces de monnaie réapprend à nager.
C'est beau.
C'est beau. Métaphoriquement, c'est un bel espoir pour François Fillon.
Allez, c'est sur France Inter, en compagnie d'André Wilms. Alors, on va en profiter avec ce premier sujet.
Tout de brève, André Wilms. Hein. Excusez-moi de vous le dire.
La tortue, il a salué
à
perdre.
On peut passer de la plomberie à Coris Maki et au brève, vous savez. Premier sujet, on pensait avoir tout vu dans cette campagne. Mais non, c'était sans compter la créativité de quelques communistes qui viennent de se ranger derrière Emmanuel Macron. Robert Hue en tête.
C'est curieux. Vos compagnons semblent vraiment être aux abois. Ils ne s'imaginent pas qu'une assemblée de pirates combatifs peut venir à bout du Hollandais volant. Ainsi, le désespoir mène à la trahison. Mais vous et moi ne sommes pas étrangers à la trahison, n'est-ce pas ?
Un extrait de Pirates des Caraïbes.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne très très bien. Alors André Wilms, oui. Depuis la chute du mur, le communisme, ça allait plus très bien, ça on est d'accord. Mais là, est-ce que, en suivant Emmanuel Macron dans le mouvement En Marche, les communistes prouvent que ça pouvait encore être pire?
Vous voulez me faire du mal?
Non, ben non.
Vous voulez m'obliger à répondre à cette question?
Non, vous n'êtes pas obligé.
Je vais fondre en larmes dans 10 minutes. Non, alors...
Ça vous touche donc? C'est-à-dire que vous...
Oui, ouais, quand même, parce que moi je viens d'une famille où ils étaient de ce côté-là. Ouais. Et j'ai quand même toujours une énorme tendresse pour des choses de ce mouvement-là. Le problème, c'est que j'aime pas trop, en tant qu'acteur, parler de ça. Parce que les acteurs, quand on parle de ça, les gens disent oh, « De quoi il se mêle, lui, ça nous intéresse absolument pas. » Donc, tu es toujours un peu piégé. Mmh. En tant que citoyen, si nous voulons en discuter, on en a pour 4 heures.
Ah, et là, voilà. C'est le citoyen non, qu'on est venu chercher.
Par contre, non, ce qui est très intéressant, c'est que comme Alsacien, je lis les journaux allemands. Alors, pour les journaux allemands, la France, c'est le Bantoustan, c'est les Zoulous. Non, mais là, ils n'y comprennent plus rien. Et c'est des journaux de droite, hein, je vous le dis. Là, avec le costume. Alors là, je crois qu'ils nous prennent pour des fous. Déjà, ils nous prennent pour des fous, mais ils n'en reviennent pas. Ils croient qu'on est la république bananière la plus arriérée que la Terre ait jamais portée. Alors non. Oui. Là, c'est très agréable de lire les journaux.
J'imagine, mais c'est vrai que c'est une
pour eux,
bonne manière.
On est des fous, quoi. Ils n'y comprennent rien. T'imagines Angela Merkel, tout sa garde-robe, en une heure, François Fillon. Non, mais ils n'en reviennent pas. C'est quasiment impensable pour eux. Ils ne seraient pas restés 2 minutes.
Vous avez raison. D'ailleurs, je renvoie nos auditeurs qu'ils souhaitent au supplément du Courrier International sur la campagne présidentielle vue à travers différents journaux, notamment les journaux allemands, où effectivement on se rend compte que... Voilà.
Déjà, ils pensaient qu'on était arrogants, mais maintenant... Maintenant, ils sont au bout du rouleau.
Tiens,
on les a eus.
Dans le film de Coris Maki, La vie de Bohème, vous jouez Marcel, un poète. Ouais. On retrouve dans le film Le Havre, dans lequel vous jouez, là. Hein, c'est pas comme de l'autre côté de l'espoir. Donc, le poète, quand le film de Le Havre devient cireur de chaussures. Et vous dites dans une interview à ce sujet, voilà tout un symbole. Comment mieux dire le sentiment de la défaite, celui d'être à côté de ses pompes, tout ce à quoi a cru ma génération révolutionnaire s'est effondré, nous avons perdu sur toute la ligne.
Ouais, il y a une belle métaphore. C'est-à-dire, je m'appelle Marx, hein, parce qu'un jour, dans une
Marcel
on
Marx.
Était ensemble dans un bistrot, et je lui ai dit, je t'ai mis en extrême gauche, il me dit, tu t'appelleras Marx. Alors c'était réglé, on avait discuté d'autres choses. Et puis donc, j'étais poète, encore dans La vie de Bohème, évidemment, poète raté, donc je deviens cireur de chaussures, à un moment où tout le monde porte que des baskets. Et c'est la fin, c'est ça la métaphore, c'est même ça, je ne peux plus l'être. Et c'est marrant, parce qu'on a tourné effectivement à la sortie de la gare du Havre, et j'essayais de serrer les chaussures. Tout le monde avait des baskets, donc c'était foutu. Donc le désespoir, il était déjà là, sans en faire non plus des kilos dans le genre. C'était juste un petit désespoir élégant, hein, et la grimace de la pudeur. Quoi.
Jusqu'à ce que, si Emmanuel Macron est élu, il mette un ministre communiste au gouvernement, et alors là, on n'aura plus rien à dire, ça c'est sûr. André Vils.
Mitterrand les a liquidés, Macron les réintègre. Ouais.
À 17h30 sur France Inter, André Vils, nous sommes en compagnie aussi de Mélanie Boer. La découverte musicale du jour, ou la redécouverte dans ce cas-ci?
Du reggae. 50 ans que le reggae existe, né sur les bases du ska, vous le savez, en Jamaïque, inventé par Frédéric Toots Hibbert, compositeur en 1967 de Do the Reggae, premier titre à utiliser le mot reggae pour définir la culture rasta et son rythme unique. Alors c'est cette vieille musique assez légende, Bob Marley évidemment, et puis chez nous, la Marseillaise de Gainsbourg, et bien sûr...
À Strasbourg.
À Strasbourg. Et bien sûr, des pionniers.
Il est 17h31 à Strasbourg.
Et bien sûr, des pionniers, quelques héros vivants, luttant contre l'invasion de la pop musique américaine dans les sonorités pures de leur île. Parce qu'en Jamaïque, les jeunes rêvent plus de devenir des stars du R&B que de perpétuer la philosophie mystique des Rastas. Et c'est là que nous intervenons, nous les Français, grands consommateurs de reggae roots, hein, comme vous tous à cette table. Vendredi dernier est sortie la nouvelle compilation Ina de Yard, traduisée dans le jardin. Un projet qui a vu le jour en 2004, sous la houlette à l'époque d'un label français, Maca Sound. 13 ans que ce petit groupe de passionnés va chercher en Jamaïque le son authentique du reggae, enregistré en liberté dans son milieu naturel. Cette fois-ci, 4 jours d'enregistrement dans une maison sur les hauteurs de Kingston, avec des stars comme les Viceroys, dont le premier gros tube sorti en 68, Yahoo, est repris ici. En concert chez nous, c'était en 2010 pour Ina de Yard.
C'est bon.
Elle se fait bouger autour de cette table.
Vous vouliez qu'on ralentisse, on ralentiche, André. Les voilà donc de retour chez nous, ces légendes du reggae, Kane Booth, Cedric Congo-Maïten, Lloyd Parks, Kid Is High, Winston McAnuff, surnommé affectueusement le Dread électrique, accompagné d'une nouvelle génération de musiciens, et notamment le fils de Winston, Kush, vous connaissiez peut-être son autre fils, Matthew, malheureusement aujourd'hui décédé. Toute cette troupe d'Ina de Yard sera à l'honneur de la grande expo à la Philharmonie de Paris, Jamaïca, Jamaïca, qui s'ouvre le 4 avril sous l'œil bienveillant de France Inter. Ils seront en concert le 22 avril, c'est un événement qu'on pourrait transposer chez nous, pour que vous compreniez bien, un petit peu comme la tournée des vieilles canailles avec Johnny Dutronc et Eddie, mais version reggae. Mais regardez pas comme ça, Alex Vizorek.
C'est ouf, parce que j'ai compris la comparaison.
D'ailleurs, vous avez sûrement entendu sur Inter le single Let the Water Dry de Kane Booth avec les Viceroys. You never miss your water till your well runs dry. Till your well runs dry, brothers and sisters. So let the teardrops fall. What you have done. Une version nouvelle donc de son tube sorti en 68 sur l'album Mr. Rocksteady, cette voix un petit peu soul de Kane Booth. Voilà, je voulais finir avec la nouvelle génération, Kush McAnuff avec Black to High Roots. Et pour bien écouter ce morceau, je vous invite à visualiser cette île qui regorge de fruits, de couleurs, de sound system à chaque coin de rue, tout autant que d'églises, cette mer paradisiaque et ces gens qui prêchent l'amour dans une société violente. Enfin, une leçon de percussion pour terminer cette chronique qui m'a été offerte un jour par un vieux rasta en Jamaïque. Pour bien comprendre ma musique petite, si tu veux trouver le rythme, commence par écouter le battement de ton cœur et le reste suivra.
Ça parait là-bas. Hein. I for Parents Foundation in Africa. Addis Ababa. Colonial slave master came and still our culture. Then them carry I and I all over the world. In a them shackles and them chains, but I and I all survive still. Black to high roots, black to high roots, black to high roots, black to high roots. What do I say? Black to high roots, yeah. Black to high roots. Don't you fight the bird. Take I to the western realm to work on the plantation. All I could feel was the lashing of the whips. I and I not take no more brutality on ya. I and I are so fine still. Black to high roots. Black to high roots.
Parler, Mélanie, de reggae, je pense sans rappeler que la drogue reste dangereuse pour la santé.
Oh, mais c'est ridicule. Je suis sûre que dans votre cœur, le battement est absurde.
C'était le battement du cœur qui mène à Ina de Yard et Kurt McAnuff, Black to High Roots.
Oui. Jamaïca, Boer, Jamaïca ouais. Aussi à la Philharmonie de Paris à partir du 4 avril.
Voilà. Merci Mélanie Boer. Vous êtes bien sur France Inter. Il est 17h36 à Strasbourg parce que ça fait 10 minutes qu'on n'a pas dit Strasbourg alors qu'il y a André Ville.
Oui, totalement. Ouais. C'est absolument, absolument alsacien.
Il est chaud,
c'est
André.
Il est chaud.
André Wilm est avec nous. Il est venu nous parler de L'autre côté de l'espoir, le film d'Aki Kaurismäki, et il est venu nous en parler en camarade parce que c'est un acteur fétiche de Kaurismäki, mais il ne joue pas dans L'autre côté de l'espoir, et c'est pour ça qu'on espère qu'Aki Kaurismäki ne va pas tenir sa parole d'arrêter, que ce soit son dernier film, parce qu'on adorerait vous voir dans le prochain. N'est-ce pas ?
Merci.
C'est un film qui sort en salle mercredi.
Kaurismäki, c'est alsacien, ça, non ?
Presque. Non.
Allez, à côté de vous,
avec
il y a...
Avec l'accent, c'est autre chose, hein ?
Ouais, c'est vrai. Guillaume Meurice, à côté de vous. Guillaume Meurice qui va vous parler d'un sujet qui va très certainement vous parler, André Wilms.
Ah oui,
je suis certaine.
Non, on va pas rigoler là aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un terrible fléau, le racisme. Et plus particulièrement, le racisme anti-riche. On le voit, il frappe partout, partout, partout. Le moindre costard à 10 000 boules offert par un copain est montré du doigt. Quand on est né dans un château à Saint-Cloud et qu'on veut parler au nom du peuple, tout le monde se fout de votre gueule. Quand vous avez été banquier d'affaires chez Rothschild, ça va pas non plus. Alors, moi, je suis assez clair là-dessus. Je n'ai rien contre les riches. J'ai même un excellent ami chroniqueur à France Inter qui connaît Gérard Depardieu. Donc voilà, moi, je suis complètement clean là-dessus. Mais voilà, je voulais vraiment insister sur le fait que les riches sont harcelés. On les cantonne dans des sports à la con, comme le polo ou le golf. Ils sont humiliés tous les jours. Et je l'ai vu ce matin, j'étais au salon du golf, porte de Versailles. Je suis allé à la rencontre de ces gens qui vivent l'oppression. Avec cette question, pourquoi en France, on n'aime pas les riches?
Mais je sais pas, peut-être que... Peut-être que les riches ne savent pas parler aux autres.
Voilà, problème de communication. Déjà, c'est important, la timidité du riche. Alors, pourquoi il achète des agences de com et des médias, le riche? Parce qu'il ne sait pas parler à son prochain sans faire une campagne de pub ou un breaking news. C'est compliqué. Après, il y a un vrai problème français.
Alors, le problème français, c'est le ghetto.
Et ben voilà.
Alors, comment un pauvre peut comprendre un riche s'il vit séparé? Le riche est dans un ghetto, ce qui est très triste pour lui.
Voilà, la détresse du riche dans un township des Hauts-de-Seine. Ça, c'est un vrai problème aussi. Hein. Le pauvre, lui, n'a pas ce problème parce qu'il sort de son ghetto, le pauvre. Hein, il se lève à 5h du mat pour nettoyer les chiottes chez le riche. Il voyage et c'est pour ça qu'il est moins triste. Il est mobile. Alors attention, attention, les pauvres travaillent, mais pas que.
Parce que les riches travaillent aussi. Sinon, ils ne seraient pas riches.
Les riches sont obligés de travailler pour être riches?
Ils sont obligés de travailler pour être riches, oui.
Parce que moi, on m'avait dit qu'il y avait des riches qui ne travaillaient pas, mais qui étaient riches quand même.
Oui, parce qu'ils ont des papas riches.
Ah, voilà.
Ah bah, tiens.
Ah bah oui, mais du coup, ils ne travaillent pas.
Si.
Ah si, quand même.
Faut gérer.
Ah oui.
C'est un travail, gérer.
Eh oui, oui, on n'y pense pas, ça. Mais le pauvre, il est peinard. Le 10 du mois, il n'a plus rien à gérer sur son compte. Il peut se reposer. Voilà, le riche travaille. Le riche, il doit couper le son de son jacuzzi pour écouter Jean-Yves Courcial en direct de la Bourse de Paris. Il bosse tous les jours, le riche. Alors après, il y a d'autres raisons pour lesquelles les riches sont mal aimés.
Parce que la réussite de l'autre fait peur et que ça gêne. Et alors pourquoi, la question?
Eh oui, pourquoi ça fait peur et pourquoi ça gêne?
Pourquoi tant de haine? La convoitise, hein, la convoitise, l'envie. Je suis déjà dans deux des sept péchés capitaux, hein, convoitise, envie.
Le pauvre est un pécheur.
Voilà, c'est ça.
Évidemment, évidemment. Venez à moi, pauvre pêcheur. Hein, il l'a dit, le gars. Hein, il n'a pas dit riche pêcheur. Hein. Alors là, le pauvre commet des péchés d'autres. Hein, il se met en colère, le pauvre. Souvent, on le voit. Il met des caouets CGT. Il se regroupe pour manger des merguez. Il est comme ça. Il est colère, le pauvre, parfois. Mais il ira en enfer. Hein, et ça sera terminé pour lui. Et puis, même, il payera le fioul pour entretenir les flammes. Ça lui apprendra. De toute façon, quoi?
De toute façon, on déteste toujours ce qu'on voudrait être, mais qu'on ne peut pas être. Voilà.
Ah, donc, c'est de l'aigreur.
Absolument. Qu'on se contente de sa condition.
Quand on se contente de sa condition, on est heureux.
Absolument.
C'est votre conseil pour les pauvres.
Non, mais il ne faut pas chercher à posséder pour posséder. Hein. Ça ne sert à rien.
Mais évidemment. Mais ça, il faut faire passer le message dans les favelas, là, dans les bidonvilles, dans les centres du SAMU social. Bon, vous avez trois cartons de boîtes de conserve, et bien tout va bien, les gars. Posséder pour posséder, ça ne sert à rien. Un qui va bien aussi, je vais vous le dire, c'est Marc Assous. Hein, Marc, c'est le patron du salon du golf et c'est un personnage, comment dire, haut en couleur, quoi, qui n'a pas sa langue dans son slip. Il a un avis sur la question des différences riches-pauvres.
Quand on voit une belle bagnole, on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle la bagnole !» Mais le problème, il n'est pas là. C'est que la bagnole, c'est vrai qu'elle est belle, mais le mec qui l'a conduit dedans, il ne l'a pas volée. Hein. Il a travaillé dur. Alors, ses parents ont été intelligents à ce gars-là. Ils lui ont payé des études, il est devenu médecin, il est devenu archi, il a fait un beau métier, une profession libérale, il travaille dur.
Ah, peut-être que ses parents étaient riches aussi, ça se trouve.
Le problème, il n'est pas là. C'est que les gens en France aujourd'hui, quand ils voient une belle bagnole passer, ils sont contents de voir la belle balle. Mais il y a un sentiment, quelque part, où ils sont un peu jaloux.
Ah, le pauvre est jaloux, il a raison, Marco. Putain, les pauvres, levez-vous le cul pour avoir des parents riches, merde. Ou alors allez vous faire exploiter dans des petits boulots. Ne comptez pas sur la solidarité nationale, ça, Marc, il est bien d'accord.
Alors quand j'entends les politiques dire « Aujourd'hui, je vais donner 600 balles à tous les gamins 18 piges qui ne bosseront pas, comme ça on va les aider », je dis « Mais le mec, il a rien compris, quoi. Allez, allô, bonjour monsieur, vous n'avez rien compris. Allô, vous m'entendez ?»
Oh là là, attendez, parce que là, on vient d'atteindre le point Nabila, c'était pas prévu. Nabila, excellent exemple hein, de personne payée une fortune à rien foutre, beau symbole de l'époque, bravo à elle et stop au harcèlement des pauvres riches.
Merci Guillaume Meurice, c'est là qu'on se rend compte que c'est dangereux le golf.
Mais
ne faites pas ça chez vous.
Je vous envoie pour parler de golf, vous me revenez avec un reportage sur la lutte des classes.
Ah pardon, mais j'avais pas compris la consigne.
André Ville, vous voulez réagir?
Ceci dit, si tu joues comme le mec qui vient de parler là, ouais. Marc je sais pas quoi, Marc tout Assous. Le monde te dit il est fou hein.
il faut le renvoyer. Qu'il irait du métier d'acteur à tout jamais.
Ah, mais lui, il joue pas. Ah, il
non, mais il s'en fout. Non, non, j'aimais bien la phrase de Jules Renard. Tous les hommes naissent égaux et dès le lendemain, ils ne le sont plus. C'est pas mal, voilà.
André Villes.
Oui.
Vous êtes tendu une perche une fois, ça ne va pas continuer.
Il est 17h42 à Eggisheim, où on nous écoute également et on les salue.
Vous connaissez Eggisheim ?
Oui, parce que c'est jumelé avec ma ville en Belgique, la Louvière, et on fait du très bon vin. Et donc, voilà. Donc je salue les habitants d'Eggisheim.
Eh ben.
C'est...
voilà.
Eh ben. C'est bien Eggisheim, non ?
On l'avait bouché.
Hein, ah, je vous en bouche un coin, André Wilms. Hein. Eh ben, je suis bien contente. Sujet 2 avec vous. L'explosion de l'offre culturelle. Ah voilà, ça, là, on, si on a, on, là on est parti avec vous jusqu'à 19h sur ce sujet, André. Non. Voilà, voilà qui peut créer une angoisse. Car comment faire pour voir, lire ou écouter tout ce qu'on a envie de découvrir ? En voilà un beau problème de riche. L'obésité culturelle et l'injonction à ne surtout pas rater tel bouquin ou telle série. La curiosité est menacée, enfin du moment qu'il reste le plaisir.
En tous les cas, moi je passe un moment idyllique. Pas toi Henri ?
Ça va, oui ça va.
Tous les couleurs, les personnages, les gens, les cadres.
Carole ?
Oui ?
Est-ce que tu peux arrêter d'être en joie ? Ça me gâche tout.
Que je sois contente.
Non, c'est pas que tu sois contente qui me gâche tout, c'est que tu sois contente tout le temps.
Mais Henri...
Depuis 6 heures ce matin, tu es contente, Carole. Tu étais contente que le réveil sonne, tu étais contente de prendre le car, tu étais contente de la pipi sur l'autoroute. C'est ça quoi, fait 15 ans que tu es de bonne humeur, Carole. C'est beaucoup, beaucoup.
Henri...
Et dans les musées, ça augmente. L'art multiplie l'euphorie. Même la porcelaine allemande du deuxième étage, ça t'a réjoui, Carole. Les assiettes marrons avec tes têtes de sanglier, les soupirs en forme de bottes, les casques à pointe en salière, tout t'a rendu heureuse. Tout.
Isabelle Carré et Pierre Arditi dans Museo Museba. Alors c'est un dossier qui est paru dans Le Monde ce week-end. L'article explique que le consommateur culturel est aujourd'hui un type en panique. Un Sisyphe estomaqué par la taille sans cesse exponentielle du rocher qui lui fait face. Alors André Wilms, on a abordé un petit peu ça au début de l'émission. Vous faisiez la différence entre la culture où il suffit de tendre la main et l'art. Est-ce que par rapport à il y a 15 ou 20 ans, il vous arrive d'être un peu dépassé par tout ce que vous avez envie de lire, d'écouter et de voir?
Un peu dépassé, totalement dépassé. C'est comme la pornographie, quoi. C'est l'injonction de jouir en permanence, l'injonction de voir en permanence, l'injection d'aller au cinéma en permanence, l'injection d'aller au théâtre en permanence. Je suis paniqué. Je n'ai pas l'air comme ça. Non, c'est terrifiant. Mais on ne sait pas comment s'en sortir et ça ne s'arrêtera pas, je pense. C'est une espèce d'énorme dégueulis, là, d'images, de textes, de machins. Et maintenant, même avec mon téléphone, j'arrive à contacter je ne sais pas qui, les Américains, tout le monde.
Mais alors, comment faites-vous ? Est-ce que vous hiérarchisez sur votre table de chevet ? Il y a une pile de livres avec
il y a une pile de livres, il y en a trop, évidemment. Je n'arrive pas à tous les lire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là-dessus, je n'ai aucune réponse.
On peut écouter toujours du reggae, moi.
Ouais, non, il y a peut-être une décroissance à avoir aussi dans la culture. Comme beaucoup de gens parlent de la décroissance,
oui,
il faut manger moins, il faut je ne sais pas quoi. Eh bien, je crois que dans la culture aussi, on devrait décroisser.
Et finalement, chez vous, dans la construction de votre bagage culturel, comme on l'a dit, vous êtes arrivé à la comédie, au métier d'acteur par hasard. Vous avez dit, une des rares choses qui me plaisent dans le métier d'acteur, c'est de découvrir des choses que je ne connaissais pas. Est-ce que votre bagage, il s'est construit un peu sur le tas aussi, avec les rôles que vous avez rencontrés, les textes qui vous sont tombés dans les mains ?
Je crois qu'il y a une chose qui est assez jolie, c'est que tu deviennes de moins en moins con. Donc c'est déjà difficile, parce que là, il y a du boulot. Et donc, tu rencontres les gens... Et c'est comme une université, il y a des gens qui m'ont appris des trucs sur le théâtre grec, j'en connaissais rien du tout. C'était Jean Bollack, c'était un linguiste. Un metteur en scène m'a appris des choses. C'est comme une petite université, cette fonction universitaire quasiment. Maintenant, tout le monde rigole, tout le monde dit « Oh putain, d'un télo, faut que ça fonce, faut que ça se marre, faut y aller, faut dépoter, quoi. Il faut avoir la répartie, il faut être rapide, il faut être... » Alors que c'est vrai qu'un livre, ça prend du temps... Lire, ça prend du temps. Penser, ça prend du temps. Penser ne console ni ne rend heureux, je sais. Mais c'est quand même mieux que de ne pas penser. Donc, il faut que les gens repensent. Il faut que les gens se remettent à être calmes. Il faut que... Mais c'est impossible. Je crois que là, c'est... Là, ça va être un vrai combat. Là, c'est le vrai combat. Le vrai combat, c'est pas contre... Le racisme, il n'est pas économique. Il est dans les têtes, il est spirituel. Il y a un effondrement. De l'utopie, quand il y a l'effondrement de l'utopie, il y a forcément tu veux tuer ton voisin. Tu vas lui mettre un pain, il est forcément ton ennemi. Puisque tu n'as plus de pensée plus grande que toi. Tu n'as plus que toi-même à t'occuper. Quand tu t'occupes de toi-même, c'est répugnant. Toi-même, tu es un être répugnant. Penser contre soi-même, nom de Dieu. Eh ben, les gens, ils pensent pas contre soi-même. Le salaud, là, je vais en mettre une, tu vois. En plus, il vient baiser ma femme, ce.
Ça me... Alors, c'est pas bien.
Non, ça, c'est pas bien. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai.
Et vous avez prévenu qu'il était un peu réac, hein.
C'est vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais je vois très bien. Et d'ailleurs, ce que vous expliquez aussi, c'est que pour se cultiver, finalement, il faut suer sang et eau. C'est une construction. Il y a une lenteur. Et donc, consommer comme ça et picorer, c'est pas comme ça qu'on se construit un véritable bagage.
Vous avez parlé de Nabila, tout d'un coup, elle devient une star. Et maintenant, c'est plus le problème d'être acteur ou pas du tout. Le problème, c'est d'être célèbre. Point à la ligne. Les gens, on s'en fout. D'ailleurs, on sait même plus que c'est un acteur. Plus personne. C'est n'importe quoi.
Peut-être qu'Hippolyte Girardot va nous rappeler.
Va me répondre.
Dans l'exercice de la chronique, il est aussi acteur.
Oui, non, mais j'écoute avec beaucoup d'attention ce que dit André. Très justement. Mon cher André,
oui.
Malgré votre réputation totalement infondée d'acteur intellectuel, sous prétexte que vous savez aligner deux phrases intelligentes, que vous citez le poète Arthur Cravan pour fustiger les artistes, que vous êtes un rebelle prêt à en découdre au poing contre les intégristes catholiques, ici, à Annule Tout, nous n'avons peur de rien et nous disons fièrement, oui, nous invitons André Vilms. Personnellement, moi, on m'offre des slips en peau de bête pour que je parle de films français sexistes et racistes. Je ne le fais pas, je ne dis pas merci, parce que ce que moi j'aime, c'est les films finlandais, japonais, dépressifs et burlesques. De toute façon, c'est ambiance, ta mère en slip de guerre, en monop en ce moment. Les types qui veulent rejouer le match PSG-Barça, Hollande qui se garde des parrainages au cas où, et Fillon qui a des vestes matelassées en vison. Alors dans le genre, slip de catch offert par des amis, moi j'en ai trouvé une bonne cette semaine. Un petit bureau de conseil en neuromarketing qui analyse les émotions des consommateurs à l'aide d'outils issus des neurosciences. Eh ouais, alors moi quand j'ai lu ça, je me suis dit non mais quel pipotage. Vous savez ce qu'on m'a dit ? Leur idée, c'est qu'aujourd'hui on calcule tout, on fait des études, on met tout en chiffres. C'est ce qu'on appelle du data. Pour optimiser la connaissance client et mieux piloter les stratégies d'innovation. Bon, en clair, plus entubé et mieux entubé. Mais tout ça, ce sont des chiffres. Non, parce que ce qui leur manque, c'est de l'émotionnel. Alors ce petit bureau de conseil, créé par un des gars qui travaillait avec ces galères il y a longtemps, nous assène que 90% de nos décisions d'achat sont conduites par nos émotions. Alors que moi, quand je leur dis que ce chiffre est proportionnel au verre de pastis qu'ils ont bu pendant la réunion, voilà ce qu'ils me répondent. Et ils ont testé le truc dans un grand magasin de bricolage pour savoir comment ça réagissait émotionnellement face aux perceuses, tuyaux d'arrosage, petites vis en laiton et autres colles ultra puissantes. On attache au poignet du client un bracelet connecté qui évalue la mesure électrodermale, le battement cardiaque et la température extracutanée. On l'envoie se balader dans les rayons, on croise toutes ces données avec le plan du magasin et arrivé aux caisses, on sait ce qu'il a aimé. Waouh, la tronçonneuse a trop bonne, sans déconner, et pas aimé. Le détecteur fumé en forme de testicule, je suis pas sûr. Voilà, c'est vraiment prendre les gens pour des robots acheteurs, des esclaves du capitalisme. Mais alors, là où ça devient vraiment poilant, vraiment trop thug life, saut 2017, c'est quand ils ont décidé de l'appliquer pour cette fameuse sélection présidentielle. Mais non, mais si! Ça va se passer le 20 mars, lors du débat entre les candidats à la télé. Alors, ils vont ajouter au bracelet qu'un panel de spectateurs auront un autre système, la reconnaissance faciale, l'analyse en direct des expressions du visage qui disent nos émotions malgré nous. À ce moment-là, on n'aura même plus besoin de penser, on n'aura même plus besoin de réfléchir à choisir. Le type sera choisi émotionnellement grâce à ce logiciel. Et j'imagine évidemment que la tronçonneuse aura plus de succès que la décolleuse papier peint, l'outil multifonction ou l'arroseur enterré. Eh ouais. Voilà.
Hippolyte Girardot, merci.
On vous conseille la vidéo parce que le geste de lancement de son d'Hippolyte
Girardot,
il était dedans dans le rôle.
Ah, j'ai tout appris chez Mick Jagger quand j'étais jeune, maintenant ça me reste. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
André Vilms, voici un troisième sujet qui devrait vous inspirer aussi. Le dernier skipper du Vendée Globe a reçu un accueil triomphal ce week-end. Quitte à perdre une course, autant la perdre dans les grandes largeurs. Sébastien Destrémo est arrivé 50 jours après le vainqueur, Armel Leclerc,
qui lui a fait le tour du monde en 74 jours. N'est-ce pas rassurant de voir que la lenteur est encore célébrée et qu'arriver dernier peut être considéré comme un exploit? Et là, je dirais surtout pour un Français.
Ah, attendez, oui. J'ai des nouvelles sur le 10 000 mètres. Oh là là, Raoul Ménard qui tenait la tête va se faire bientôt dépasser.
Attendez.
Aïe, ça y est, le peloton est à ses talons, hélas.
Hervé,
excusez-moi. Oh là là. Ah, excuse-moi, Jean-Paul, mais là maintenant le peloton dépasse le pauvre Raoul Ménard.
Ah, Hervé, excuse-moi, oui. Non, attendez, excuse-moi Hervé, oui. Mais Raoul Ménard avait un tour de retard. Il entame donc son deuxième tour de retard, je précise.
Ah, bon, d'accord, donc rien de dramatique, c'est une bonne nouvelle.
Non, tout à fait. En tout cas, la course suit son cours et tous les espoirs restent permis pour Raoul.
Tout à fait.
Un extrait des Inconnus. Alors, comme je m'animale le breton, c'est Armel Lecléache, bien sûr, qui est arrivé premier en 74 jours. Rappelez-vous, c'était un exploit extraordinaire sur sa Formule 1 des mers, etc. Et dans la nuit de vendredi à samedi, arrive Sébastien Destremo, à la cool, en version reggae, au bout de 124 jours. Voilà, il savait qu'il avait perdu, il arrive le dernier. Mais alors, l'accueil est triomphal, il y a 10 000 personnes, il y a des journalistes, etc. Est-ce que vous trouvez une symbolique là-dedans, vous, André Wilms?
Quand j'étais petit en Alsace, au catéchisme, en dehors de tenter de me tripoter, les curés m'ont appris « Les derniers seront les premiers ». Eh bien, c'est beau.
C'est voilà. Pas Céline Dion qui a dit ça?
Non. Si, c'est possible aussi.
Ah, oui.
Et puis le reste, le Vendée Globe, là, je m'en tamponne le coquillage.
Je très bien. Je m'en doutais. Mais vous êtes sensible au milieu, au monde des marins, non?
Les marins, oui, les beaux marins. Mais... Non, pas vraiment.
Non, pas vraiment.
J'ai essayé de dire oui. Pas vraiment.
Souvent dans les interviews, vous dites moi, je suis arrivé comme comédien, acteur un peu par hasard. Moi, j'aurais préféré aller picoler, boire des coups avec les marins dans les ports. Et c'est vrai qu'il y a le Havre où il y a de l'autre côté de l'espoir. À qui Coris Maki, les deux ces deux films commencent dans un port.
Oui, ça c'est un peu le grand romantisme qu'on aimerait bien, mais ils sont disparus un peu. Ils picolent plus maintenant parce que leur truc, c'est des Formule 1. Oui. S'ils font une connerie,
faut être rentable. Est-ce que c'est pas plus difficile de gagner avec panache est-ce que c'est pas plus difficile de perdre avec panache justement que de gagner avec panache? Quitte à perdre, autant essayer de perdre d'une certaine manière, ou quand on sait qu'on va pas être premier, autant finalement essayer d'être dernier, le 17e du Vendée Globe, on connaît pas son nom, mais le 18e, c'est le dernier. Et il se passe quelque chose.
Vraie question de quelqu'un qui connaît rien au sport.
Absolument rien. Et alors, absolument rien. Mais je ne sais pas à quoi vous répondre, vous me coupez la chic.
Je ne voudrais pas, André.
Non, mais il n'y a pas seulement cette tradition, elle était dans le Tour de France.
Oui.
Il y avait ce qu'on appelait la lanterne rouge. C'est-à-dire la lanterne rouge, hein, vous voyez.
Mais c'est les plus méritants.
Les révolutionnaires. Ils étaient même les derniers, toujours, même... On est dans le Tour de France.
C'est celui qui a passé le plus de temps sur son vélo, donc c'est le plus méritant.
Donc voilà.
C'est comme là, c'est lui qui a connu le plus de tempêtes, le plus de casses.
D'ailleurs, le premier dit qu'il ne pourrait pas naviguer comme le dernier. Il n'y arriverait pas. Il trouve ça très long, cette solitude. Il ne sait même pas comment il a fait Destremo.
Et on parlait de l'éloge de la lenteur, là, on est dedans. Voilà, le mec prend son temps.
Effectivement.
C'est beau, un tour du monde à la voile, quel intérêt d'aller le plus vite possible, c'est complètement con.
Et puis avec un bateau qui n'est pas une Formule 1 des mers, mais qui est un bateau...
Son bateau, lui, c'est une histoire pas possible. C'est un miracle qu'il flotte.
Ramené d'Afrique du Sud, etc.
C'est incroyable. Il fait partie d'une famille de marins. Et toute la famille était à lui pour lui mettre ses voiles. Il les a eu au dernier moment. Il est parti, il ne savait même pas quelle voile il avait. Son histoire est géniale.
Et puis il a dû rationner la nourriture.
Mais par contre, c'est un artiste, car c'est le seul qui a décidé d'écrire le journal de sa course. Et le bouquin va être publié la semaine prochaine. Il a tout écrit pendant
André Wilms, on voudrait jouer avec vous si vous êtes d'accord.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, un rôle que j'espère vous n'avez pas encore joué, celui de François Fillon. Ce silence en dit long sur votre envie de le jouer. Hippolyte Girardot et Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy a une vraie question à poser à François Fillon. Il se rend donc dans la Sarthe, chez lui, pour lui en parler.
Bonjour François.
Mais quel plaisir de te voir, Nicolas. Tu vas bien?
Ah ben, depuis que tu vas mal, je dois dire, je me sens mieux.
Je le savais. Je te connais. Installe-toi dans le canapé.
Oh, mais il est magnifique, ce canapé.
Cuir de vachette. Il y a place pour 12 personnes. 132 000 euros. C'est un ami qui m'en a fait cadeau un soir en venant dîner.
Eh ben, moi c'est marrant. Moi, les gens, ils viennent avec du champagne, des fleurs pour Carla, mais jamais avec des costumes ou du mobilier.
J'ai de très bons amis. Tu vois? La Lamborghini dans la cour.
Non.
Si. Un ami qui l'a oublié. Puis il m'a dit, Garde-la, François, moi, je préfère les Twingo.
Ah, bah si, en plus, ça arrangeait tout le monde.
Je vous sers du café, François?
Je veux bien.
Nicolas aussi?
Oui, Monsieur Sarkozy veut bien.
Oui, je vous apporte ça tout de suite.
Dites donc, ton personnel est très familier.
C'est pas mon personnel, c'est ma femme.
Non.
Si.
Sale. Mais je ne l'avais jamais vue.
Tu n'es pas le seul. Qu'est-ce qui t'amène?
En fait, voilà. François, je voudrais que tu m'expliques...
Comment vautrer une campagne présidentielle?
Non, ça je sais faire. Je voudrais que tu m'expliques comment tu parviens à cacher que tu es beaucoup plus bling-bling que moi.
L'habit ne fait pas le moine. Plus rien ne m'appartient.
Enfin, mais tout ça...
Tout est au nom de mes enfants.
Et comme il m'en a fait beaucoup...
Madame Fillon, votre café est délicieux.
Merci, c'est parce que je moule le café moi-même dans le moulin à café. C'est du travail, vous savez.
Ça, en matière de travail, Pénélope est pointue.
François, tu n'aurais pas vu le petit?
Il a dû arriver. Je vois son hélicoptère garé dans la cour.
Un hélicoptère?
Mais oui, c'est un ami qui...
Je sais. Tu me bluffes, François, tu me bluffes.
Nicolas, la technique, c'est de tirer la tronche tout le temps.
Ah bon? Pourquoi?
Comme ça, les gens pensent que t'as une vie de merde.
Oh, c'est génial.
Ah ouais, parce que toi, t'es là avec ton Fouquet's, tes vacances sur un yacht, tes montres, ta Carla.
Non mais t'as raison, François, je vais changer.
Encore?
Allez, je te laisse. On se voit la semaine prochaine.
Où ça?
Bah, t'as rendez-vous chez le juge. Je passerai sans doute.
Ah, oh, ce Nicolas, c'est pas un ami fictif. Hein. André Wilms, magnifique, bravo, François Fillon.
Deuxième carrière qui s'ouvre à moi.
On a ressenti poindre le petit côté lequenois de La vie est un long fleuve tranquille. André Wilms, merci beaucoup. On rappelle
merci
que le
vous.
Film d'Aki Korismaki, De l'autre côté de l'espoir, sort en salle mercredi. Et allez le voir parce que c'est peut-être son dernier film. Enfin, on croise les doigts pour que ce soit pas le cas. Merci beaucoup André Wilms et on va laisser le mot de la fin à un petit malin qui a vu clair dans le petit jeu de questions de Guillaume Meurice.
Vous êtes très fort. J'ai très bien compris de quelle manière vous vouliez avancer avec moi. Et c'est pour ça, monsieur, que je ne vous attaque pas en frontal. Je vais passer par derrière.